Bonsoir à toutes et à tous. Les régimes spéciaux doivent disparaître. Déclaration du Premier ministre Édouard Philippe il y a quelques heures à Matignon. Les syndicats, eux, ne désarment pas après le succès de la journée d'hier. Ils appellent à une nouvelle journée d'action avec grève et manifestations dans toute la France mardi prochain. La SNCF maintient la pression, seulement un TGV sur 6 demain. La RATP restera en grève jusqu'à lundi soir. Bref, chacun campe sur ses positions. Quelle sera l'issue de cette confrontation? L'opinion sera-t-elle le juge de paix? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Régimes spéciaux, le gouvernement durcit le ton ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Roland Cayrol. Vous êtes politologue, vous dirigez le CETAN, c'est le Centre d'études et d'analyse. Vous êtes l'auteur du Président sur la corde raide, les enjeux du macronisme, c'est chez Kalman Lévy. Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique de Paris Match, à lire dans le dernier numéro votre interview de Laurent Berger. Solveig Godeluc, vous êtes journaliste spécialiste des questions sociales aux Échos. Vous avez signé cet article sur les pistes de sortie de crise de l'exécutif. Et enfin, Stéphanie Matteudy, vous dirigez la société ADDS, c'est l'art du dialogue social. Vous êtes chercheuse au laboratoire de recherche et d'études en droit social rattaché à l'île 2. Bruno Jeudy, d'abord, première question. Là, le Premier ministre s'est exprimé cet après-midi à Matignon et au lendemain, il a eu des mots très durs contre les régimes spéciaux. Il a dit qu'il il fallait que les y renoncer et qu'il souhaitait leur disparition. Est-ce que vous avez été surpris de presque cette... Il y avait un petit côté provocation, provoquant, non?
Je pense que le Premier ministre... J'ai été un peu surpris, effectivement, du ton. Il était tranquille, mais ferme. Mais c'est vrai que dans les 15 minutes de sa courte prise de parole, il a fait un sort assez précis pour les bénéficiaires des régimes spéciaux. Pourquoi ? Parce qu'au fond, cette fois-ci, après peut-être avoir un peu sous-estimé ce qui s'est passé hier, je pense que l'exécutif s'attendait sans doute un peu à moins de monde dans les rues, ce qui est peu étonnant, mais le ministre de l'Intérieur leur avait évoqué plutôt le chiffre de 300 000, une prévision de 300 000, on est à l'arrivée à 800 000 selon la police. Passons.
Je pense que la différence est importante.
La différence est importante.
Christophe Castaner avait totalement sous-estimé.
Je pense qu'ils avaient sous-estimé. Je pense surtout en plus que... Jusqu'au bout, ils n'ont pas cru qu'il y aurait autant d'enseignants qui seraient sans doute dans le mouvement. Et ça, ça a débordé bien au-delà des bénéficiaires des régimes spéciaux, j'allais dire un peu des professionnels de ce genre de grève, c'est-à-dire ceux qui bénéficient des régimes spéciaux, les cheminots, les agents de la RATP. Et donc, dans son propos, il a cherché à déconnecter cette catégorie de grévistes et de manifestants du reste. D'ailleurs, on a bien vu, il a passé la pommade aux enseignants, il s'est adressé un peu aussi promettant une durée de compensation. Enfin, voilà, en tous les cas, il était assez ouvert. En revanche, avec les bénéficiaires des régimes spéciaux, c'est-à-dire les cheminots et les agents de la RATP, il a dit, d'ailleurs, il a eu ce mot-là, je le dis tranquillement, la mise en œuvre du système de retraite par points entraîne automatiquement la fin des régimes spéciaux. Il n'a pas dit automatiquement, là, implique la disparition des régimes spéciaux, je le cite. Donc, ils reprennent leur stratégie qui est de bien déconnecter cette catégorie de manifestants et de grévistes qui bloquent les transports.
Mais on imagine les grévistes, là, qui sont très fiers de leur... à raison, hein, de leur succès d'hier, qui regardent ça. On reparle la disparition.
Bien sûr,
quoi.
Mais il faut ajouter le deuxième point qui est... Mais on prendra le temps de discuter de la mise en œuvre de cette fin des régimes spéciaux et on prendra le temps qu'il faudra, c'est-à-dire
pour la transition.
Il ouvre la porte à une transition qui pourrait être beaucoup plus longue, c'est-à-dire pas concerner uniquement, j'allais dire comme tout le monde, la génération 63, puisque ce serait à partir de la génération 63 que s'appliquerait le nouveau système de retraite universelle, mais ça pourrait être bien au-delà, 10 ans peut-être, 73 peut-être au-delà. Il faut savoir, et ça c'est les chiffres du patron de la RATP, le nouveau patron de la RATP, Jean-Pierre Farandou, dit « si on va sur une durée de 10 ans, grosso modo, on règle à peu près la moitié des régimes spéciaux de la SNCF. Ils sont 120 000 actuellement en bénéficier. Le statut est clos au 31 décembre. Et donc la moitié sortent de la réforme. »
Ah oui.
Donc ça règle quand même une partie pour la SNCF.
Si on prend 10 ans de transition, voilà. Il y a la moitié,
parce que comme la moitié
sera partie de façon naturelle.
Voilà. Après il restera l'autre moitié. Après ça ne règle pas la question pour la RATP qui est encore un autre. Enfin c'est un régime spécial, mais eux le statut n'est pas clos, c'est-à-dire on peut continuer, la RATP peut continuer à embaucher sous statut de régime spécial qui permet donc les avantages partir plus tôt. Enfin non, sûrement qu'on en parlera.
Stéphanie Matteudy, c'est vrai des mots très durs enfin, sur les régimes spéciaux. En revanche, concernant les enseignants, Il a parlé, là, Édouard Philippe, de la revalorisation des traitements, de hausse des salaires, quoi, pour être concret. Est-ce qu'il joue là les gentils enseignants contre les privilégiés de la SNCF et de la RATP ?
Non, je ne pense pas, mais c'est la Saint-Nicolas aussi aujourd'hui en même temps. C'est un peu la fête de tous les enfants et là aujourd'hui de leurs enseignants. Plaisanterie mise à part, c'est 980 000 enseignants. Ce n'est pas 150 000 cheminots et 325 000 statutaires si on rassemble la RATP, la SNCF et les industries électriques et gazières. Donc, on n'est pas déjà dans la même dimension.
Il y a trois fois plus d'enseignants que de gens qui sont dans les régimes spéciaux.
Et oui, on n'est pas... Et puis, au niveau syndical, ce sont des organisations syndicales fortes comme la FSU, la Fédération syndicale unitaire, qui représentent pour large partie les enseignants. Donc, c'est dur, ils savent manifester. Ils ont montré avec la CGT qu'ils savaient mobiliser, qu'ils savaient encore finalement maintenir les gens dans la rue. Et donc du coup, comme les réformes qui ont pu avoir lieu avant finalement aujourd'hui, au départ on essayait toujours de cadrer les statuts de la fonction publique sur les régimes spéciaux sur le statut de la fonction publique, première étape. Là on vient dire carrément, de toute façon les régimes spéciaux ont... De fait, ils vont se retrouver dans le régime unitaire, dans le prochain régime uniforme, régime général.
Ils vont disparaître.
Ouais. Et donc, voilà, disparaître, enfin, être intégré. Ce qui est important, c'est qu'il y a toujours, du coup, une mise en place par des compensations généreuses. Et c'est ça qui est important. Il va y avoir, comme il y a quasiment toujours eu, pour éviter l'échec de la réforme, des compensations généreuses, par une revalorisation des grilles,
alors on va parler
par des primes, etc. etc.
Mais et dans le discours d'Edouard Philippe, il y a quand même
ça calme le jeu social.
Il y a eu des douceurs pour les enseignants qu'il n'y a pas eu pour les régimes spéciaux. C'était un peu ça est-ce que c'est comme ça que vous l'avez interprété ? Quand on a parlé non seulement...
Non,
les pensions seront garanties, mais il y aura des hausses de salaire.
Je pense qu'il est ferme, il n'a pas d'autre choix que d'être ferme. Je n'ai pas envie de dire d'être dur, mais d'être ferme s'il veut faire passer. Parce que la SNCF, elle peut faire perdurer et elle peut faire rassembler et augmenter les manifestants, à mon avis, à partir de mercredi.
Alors Roland Cayrol, Édouard Philippe a encore dit, oui, je vois les manifestants, mais j'entends aussi ceux qui souffrent des grèves. Est-ce qu'il va... Il espère que l'opinion va se lasser de ces grèves et prendre fait et cause pour la réforme ?
Et au total, c'est toujours l'opinion qui est le tribunal suprême. Dans un gouvernement démocratique, on ne peut pas gouverner longtemps contre l'opinion sur des sujets essentiels. Et vous savez combien la retraite est un sujet psychodramatique essentiel pour la France. Pensez des années 50 aux années 80, ça a été la première revendication des Français pendant 30 ans, l'abaissement de l'âge de la retraite. Bon, et depuis, vous avez vu, chaque fois qu'on a essayé de corriger cette réforme de 81-82, bah, ça a été un souk pas possible dans le pays et des affrontements très durs. Donc on ne peut pas avoir l'opinion entièrement contre soi. Aujourd'hui, vous avez une opinion qui est favorable au mouvement social.
Alors, on va voir le sondage, hein, 68% ce sondage d'Odoxa justifié. Le mouvement social.
Voilà, c'est à peu près la moyenne de tous les sondages sur les mouvements sociaux depuis 1995. Les Français sont à plus de 65% en moyenne, toujours favorables aux mouvements sociaux, quels qu'ils soient, sauf de plus en plus ceux de la SNCF qui ont moins la cote. Mais dès l'instant que c'est des mouvements sociaux autres, qu'il s'agisse des médecins, des ouvriers, des infirmières a fortiori, là il y a un soutien de l'opinion. Donc ça c'est pas surprenant, c'est toujours comme ça. Et puis il y a la réforme qu'on veut faire passer. Au fond, si on résume sur la réforme, il y a 30% des Français qui sont plutôt d'accord avec une réforme de ce genre. Il y en a 45% qui sont franchement contre. Et il y en a 25% qui se tâtent encore parce qu'ils ne savent pas très bien où on en est du contenu de cette réforme. Et donc l'objectif, c'est de rallier cela. On sait bien que ceux qui sont fermement contre, ils ne vont pas d'un coup de baguette magique devenir pour. C'est comme quand on discute avec la CGT ou FO. On le fait parce qu'il faut bien discuter, mais on sait qu'on n'aura aucun accord avec eux. Bah, ceux qu'ils représentent dans l'opinion, on n'aura pas leur accord dans les mois qui viennent. Il faut donc avoir l'accord des autres, et c'est ça qui est joué. Et c'est ça qui se joue. Et ça n'est pas joué du tout, à mon avis. Il y a des variables qui montrent qu'on n'est pas dans la dureté d'opinion qu'on a connue en 1995, ni même en 2010.
où l'opinion était beaucoup plus en faveur des manifestants.
L'opinion était beaucoup plus remontée. Il y avait d'ailleurs beaucoup plus de manifestants dans les rues, contrairement à ce que j'ai entendu hier dans beaucoup de radios et de télé.
Là, il n'y a pas un rejet profond de l'idée de changer, de modifier notre réforme
de retraite. Non, il n'y a pas un rejet aussi profond. Il y a un rejet majoritaire, je viens de le dire. Mais il n'y a pas un rejet aussi profond. Donc je crois qu'il y a, comme disait un leader syndical jadis, du grain à moudre.
Alors, Solveig Godeluc, tadam, on va enfin connaître, le Premier ministre l'a annoncé, il va dévoiler, parce que ce qui est incroyable, d'ailleurs je vais citer Laurent Berger, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre avec ces mots, il dit, Laurent Berger, on est en train de se foutre sur la gueule pour un truc dont on ne connaît pas le contenu, parce que c'est vrai, on ne connaît pas le contenu de cette réforme, mais là le Premier ministre, et pourquoi a promis juré craché, mercredi à midi, il dévoilera cette réforme, pourquoi avoir attendu aussi longtemps d'ailleurs?
Ah, bah alors ça, si on savait. Je crois que les dissensions internes au gouvernement ne sont pas tout à fait étrangères à ce temps mis pour dérouler la réforme. Ils ne vous diront jamais ça, mais c'est un petit peu difficile de faire avancer les choses quand on ne sait pas exactement où on va aller. On sait très bien où on veut atterrir à un régime universel par points. En revanche, on a un peu du mal à savoir quand et où on place les économies nécessaire pour redresser les comptes.
Alors, à écouter Gérald Darmanin hier, on abandonne l'idée de faire des économies.
Alors, rien n'est arbitré, vous savez.
Ah bon,
c'est rien n'est absolument arbitré. Ça. Et je ne suis même pas persuadée que mercredi prochain, parce que vous me posiez la question, on va tout savoir mercredi prochain, je crois qu'il ne faut pas rêver non plus. Parce que jusqu'à présent, on a eu plein d'échéances, on a attendu, on a cru qu'on allait enfin avoir le plan du gouvernement, tout déroulé, tout, et à chaque fois, c'était repoussé à quelques concertations plus loin. Donc, il ne faut pas non plus rêver.
On
je pense que ce
vue.
Qu'on va avoir... Non, pas tout à fait. En fait, on avance pas à pas. Il y a quand même des petites avancées, puis il y a souvent des reculades, tout de même. Il y en a eu cet été au G7 à Biarritz, quand Macron a dit, bah, finalement, l'âge pivot, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, peut-être qu'on pourrait faire la durée. Voilà, il y a régulièrement des petits retours en arrière et voilà, c'est un processus un petit peu compliqué. La pensée se déroule. Mais pour y revenir, mercredi, vous n'aurez pas tout. Je ne pense pas. Je pense que mercredi, il faudra avoir des mesures immédiates pour calmer la rue. Donc, on attend quand même des choses sur la SNCF, la RATP, les enseignants. Il faudra rassurer, mais ça ne veut absolument pas dire que tous les détails seront ficelés. On attend le calendrier aussi, parce qu'on sait que le projet de loi du gouvernement est attendu pour l'année prochaine, avant la fin de l'été. Enfin, elle devra être votée avant la fin de l'été, mais ça fait assez large. Hein. La fin de l'été, c'est septembre. On imagine que
sachant que l'Assemblée sera fermée 3 mois l'année prochaine.
Voilà, en plus.
Ils sont en train de refaire la coupole de l'Assemblée.
Ah, il y a des travaux.
En plein été, il y a trois mois, il n'y a pas d'Assemblée.
D'accord.
Bon, il y a parfois des petits problèmes techniques. Donc on imagine que le projet de loi, il sera plutôt sur la table après les municipales. Ça sera peut-être plus tranquille.
Et c'est là uniquement on aura les détails.
Je ne sais pas. Une fois de plus, c'est Édouard Philippe qui nous le dira. Peut-être, je l'espère.
Alors, 24 heures après une mobilisation massive, les syndicats promettent donc de poursuivre le combat et lancent déjà un nouvel appel mardi prochain. Alors, sur le terrain, sur les plateaux de télévision, le gouvernement tente de reprendre la main et de rassurer sur une réforme dont on ne connaît toujours pas les modalités, on l'a dit. Barbara Steck et Nicolas Baudry-Dasson.
La prise de parole a été annoncée en début d'après-midi et le message d'Édouard Philippe est clair. Face à la rue, le gouvernement écoute, mais ne reculera pas.
Bonjour à tous. Nos concitoyens savent que la très grande diversité des régimes actuels, des 42 régimes de retraite actuels, ne peut pas perdurer. Ils savent qu'il faudra un jour renoncer à des régimes spéciaux qui ne sont plus compris. Ils savent même qu'au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps.
En réponse à la grève, les ministres occupent l'espace médiatique. En direct hier soir face aux Français, les soldats Ndiaye et Darmanin ont tenté une nouvelle fois de déminer le terrain.
La mobilisation elle a été forte et il faut l'entendre, comme toute mobilisation sociale. Elle est aussi forte que lorsqu'en 2010, un gouvernement a fait une réforme pour reculer l'âge de la retraite. On sait toujours que quand on touche au patrimoine des Français, la réforme des retraites, les retraites, c'est le patrimoine des Français, commun des Français. Alors évidemment, il va falloir changer un certain nombre de choses, il va falloir améliorer un certain nombre de paramètres, on est là pour en discuter. Le gouvernement, il est ouvert, mais il fera cette réforme, notamment parce que c'est une grande réforme sociale.
Un exercice d'équilibriste alors que l'architecture générale du projet ne sera dévoilée que mercredi.
De toute évidence, nous n'avons pas réussi, depuis quelques mois que nous discutons de cette réforme, à rassurer et à convaincre les Français.
Débat difficile sur la fin des régimes spéciaux et passe d'armes entre la porte-parole du gouvernement et le patron de la CGT.
Il ne faut pas dire n'importe quoi,
mais
madame.
Je ne vous ai pas interrompu.
Mais moi, je vous interromps.
Dans ce cas-là, on n'aura pas de débat, enfin, monsieur Martinez. J'en suis vraiment désolée, c'est dommage.
Qu'un chauffeur de bus, c'est la vie de château, mais enfin, mettez-vous à la place de ceux qui travaillent
un peu. Je ne dis pas que chauffeur de bus, que être chauffeur de bus, c'est la vie de château, mais je pense aussi qu'on peut avoir de la fierté au travail.
La fierté et la pénibilité, c'est deux choses différentes.
Un dialogue de sourds. Avocats, cheminots, les colères s'expriment tour à tour.
On a les meilleurs régimes.
Tout ça pour essayer d'améliorer les choses.
On en a marre d'être stigmatisé. Vous nous avez stigmatisé pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui, vous nous avez chauffé à blanc. Pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles? On ne vous a rien demandé. On ne vous coûte rien. On vous rapporte de l'argent chaque année. Foutez-nous la paix. Voilà.
C'est Darmanin. Ben parce que l'intérêt général, maître, c'est d'avoir tout le monde dans un régime.
Une réforme que continue de peaufiner le haut-commissaire aux retraites. Jean-Paul Delevoye en quête d'un compromis, alors que l'opposition maintient la pression. Après avoir manifesté hier dans les rues de Marseille, Jean-Luc Mélenchon appelle à défiler de nouveau dès demain.
J'appelle tous ceux qui m'entendent et accordent du crédit à ma parole à se mobiliser pour être samedi aussi nombreux que possible dans la rue. Derrière et avec les syndicats et avec tous ceux qui sont engagés dans cette action.
Ça, c'est cool.
La maire de Lille, Martine Aubry, elle aussi dans la rue, dénonce une réforme injuste.
Moi, je suis très inquiète. Voilà, je suis très inquiète parce que pas à pas, on casse ce qui fait l'union de notre pays, finalement. Voilà, et là, c'est vraiment pas possible. J'ai jamais vu lancer à pas de charge comme ça une réforme dans un brouillard total, tout en sachant bien. Enfin, quelles sont leurs volontés? C'est pas le problème financier. Il faut de la justice, plus de justice.
Alors que la grève et les mobilisations se poursuivent, les partenaires sociaux seront reçus lundi par la ministre des Solidarités Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye, avant une nouvelle journée d'action des syndicats, mardi.
Alors, question téléspectateurs. Le gouvernement monte-t-il les Français contre les régimes spéciaux pour faire sauter la retraite par répartition plus facilement? Roland Cayrol, c'est vrai, quand Édouard Philippe dit qu'il faut renoncer à ces régimes spéciaux qui ne sont plus compris, on a l'impression qu'il surfe sur l'impopularité de ces régimes spéciaux, le gouvernement.
Il y a deux choses différentes dans ce que vous dites. Il y a, est-ce que c'est un masque pour en fait renoncer à la réforme par répartition? Et ça, on nous a affirmé solennellement depuis le début du processus qu'il n'en était pas question. Au contraire, le Premier ministre l'a encore redit aujourd'hui, on est attaché à notre système par répartition. Donc, on peut toujours dire, ce gouvernement dit n'importe quoi, je ne le crois pas, mais il nous a toujours dit le contraire.
La question, c'était peut-être sauter la retraite telle qu'elle existe aujourd'hui avec ses 42 régimes, imposer sa réforme.
Alors voilà, ça c'est autre chose. Parce que là, en effet, il y a aussi quelque chose qu'ils nous ont dit très clairement depuis le début. C'était qu'il y avait 42 régimes et qu'il fallait arriver à un régime universel. Ce qui veut bien dire faire sauter les régimes spéciaux. Et là, les Français sont, en majorité absolue, d'accord avec ça. Ils estiment, à tort ou à raison, plutôt à raison, que c'est quand même plutôt des acquis de privilèges qu'ont ceux qui bénéficient d'un régime spécial. À quoi la réponse la plus forte, à mon avis, en face de ceux qui en bénéficient, c'est « Ok, c'est vrai, mais c'est un avantage qui faisait partie d'une certaine façon de notre contrat, et on ne peut pas changer le contrat en cours de route. »
Alors, on reviendra sur...
Et l'opinion, à mon avis, est sensible au fait que les régimes spéciaux, ce n'est pas juste, qu'il faudrait y renoncer, mais elle peut être sensible aussi à cette idée que ce serait quand même normal que les gens qui en bénéficient ne voient pas un coup près qui s'abat d'un coup. Et donc, si en effet, on porte de l'année 63 de naissance, qui est normalement celle de l'entrée en vigueur de la réforme pour les gens, si on la porte à 78, bon, à mon
73,
avis...
On parle de 73, plutôt.
Moi, j'ai entendu, tout de même, l'avant-dernière...
L'âge d'Emmanuel Macron.
L'avant-dernière fois...
Non, justement.
L'avant-dernière fois, Édouard Philippe a parlé, il a dit 10 ou 15 ans. D'accord. Quand on dit avant une négociation 10 ou 15, on sait à quoi on s'attend.
Alors, Solveig Godeluc, c'est vrai que, est-ce que tactiquement, c'est plus habile de dire, est-ce que vous êtes pour ou contre ma réforme, de transformer le débat en disant, est-ce que vous êtes pour ou contre les régimes spéciaux? Est-ce que ce n'est pas ça la petite entourloupe là ?
Mais, moi d'abord, je voudrais revenir à la question précédente parce que quand même, c'est intéressant. Vous dites, est-ce que l'idée, c'est de mettre en l'air la répartition ? Et c'est au contraire. Cette réforme, pour moi, elle sert à conserver la répartition. Mmh. Parce que ce qu'on nous propose, c'est un régime universel par répartition. Et l'idée, c'est de répondre à un grand défi qu'on a aujourd'hui. Les gens, ils ne sont pas fonctionnaires toute leur vie, ou bien salariés toute leur vie, ou bien libéraux toute leur vie. Ils font de plus en plus de multiples carrières, parfois plusieurs en même temps. Et quand on a 5 régimes de retraite à liquider à la fin de sa carrière, bah, c'est l'enfer. Ça peut durer durer très longtemps.
Ce que vous voulez dire, c'est
que l'enfer. Il faut de la mobilité.
Le régime
dans les
à points
aujourd'hui.
Est plus pratique aujourd'hui avec
le
les carrières.
Le régime à points d'accord. permet d'avoir un truc universel et donc il permet de sauver aussi ce principe de répartition.
Bruno Jeudy, une question importante parce que c'est vrai que le gouvernement donnait l'impression de courir deux lièvres à la fois. Un, imposer son régime à points, donc on change le logiciel. Et puis deux, il y avait cette question des économies. Est-ce qu'en plus on va devoir durcir un petit peu l'accès à la retraite parce que le régime est déficitaire. Alors, on ne sait toujours pas, d'ailleurs, mercredi, si nous serons annoncés des mesures d'économie. Gérald Darmanin avait l'air de dire hier, non, finalement, on ne va plus faire d'économie.
Vous avez raison de parler de courir deux lièvres à la fois parce que ça renvoie à 95. 95, déjà, le gouvernement Juppé court deux lièvres à la fois. À l'époque, c'est la réforme de l'assurance maladie et les régimes spéciaux. Cette fois-ci, c'est la mise en œuvre de la retraite par points et la fin des régimes spéciaux. C'est souvent compliqué de courir deux lièvres à la fois, mais on voit bien que dans l'affaire des régimes spéciaux, il y a aussi un peu de politique. C'est quand même un axe pour le gouvernement c'est impopulaire. Et en même temps, un peu de politique, garder cet électorat de droite qui, dans l'opinion, peut soutenir le président et largement le soutenir là-dessus. Après, il y a un autre aspect. Vous parlez des mesures financières, ce qu'on appelle en jargon le paramétrique. Moi, je pense que les gens ont un peu du mal à s'y retrouver avec ces mots. En tous les cas,
paramétrique, ça veut dire toucher un peu moins ou travailler un peu plus longtemps. Quoi.
C'est surtout d'abord les mesures financières pour combler le déficit annoncé en 2025 par le comité d'orientation des retraites. Entre 9 et 17, et 2025 qui précède 2030 où ce sera pire. Est-ce qu'ils vont lâcher sur cette mesure ? La CFDT en fait une affaire de principe. La SFDT ne veut pas de mesures financières, ne veut pas d'allongement du temps de travail, repousser l'âge de la retraite. La SFDT en fait une question de principe. C'est vrai qu'hier soir, le ministre Gérald Darmanin a eu un propos qui, en gros, c'était plus une urgence, ce serait sûrement pas en 2020, et ça pouvait attendre. Il a cherché à déconnecter cette affaire de la réforme par points, c'est-à-dire arrêter de courir de lièvre à la fois. Aujourd'hui, d'abord, le Premier ministre n'en a pas reparlé. Cette piste n'est pas évoquée publiquement. Et à l'Élysée, on dit, non, c'est pas du tout abandonné. C'est toujours pas question de laisser filer les déficits. Le président s'y était engagé lorsqu'il a parlé de la réforme en détail à sa réunion de Rodez. Et pour l'instant, on est toujours à maintenir des mesures paramétriques. Je crois que lâcher aussi vite au lendemain, voire au soir d'une manifestation, c'était sans doute pas, dans le bras de fer. C'est un peu rapide, donc peut-être qu'il y aura ces mesures un peu plus tard, je ne sais pas, puisqu'on attendra mercredi, mais pour l'instant, ce n'est pas confirmé.
Stéphanie Matteudy, en revanche, ce qu'on peut noter, c'est que c'est le grand retour quand même des syndicats. On les avait enterrés un peu vite, ils seront reçus d'ailleurs par le gouvernement lundi, et on voit bien qu'il faut avoir leur accord pour pouvoir faire passer la réforme.
Et oui, c'est très intéressant parce qu'ils ont... Ils ont longtemps été discrédités, en tout cas ces derniers temps. Ils ont échoué à la réforme du Code du travail. C'était après 16 jours de grève au moins, ce n'est pas 18 d'ailleurs, en 2016. Ils ont échoué une nouvelle fois, et là c'est plus les cheminots, sur la réforme de la SNCF l'année dernière, avec un mode d'action de grève qui était un peu, j'ai envie de dire, innovante, mais qui n'a pas duré sur le long terme. Et donc, ils ont été très discrédités. Ils ont perdu en effectif en entreprise également. La CGT a perdu dans les entreprises publiques à statut, donc c'est important pour elle. Et donc, cette bataille, elle était cruciale. Et c'est pour ça qu'elle a été très anticipée, très préparée, et qu'il y a eu une large intersyndicale où, encore aujourd'hui, la CFE, les cadres, se sont ralliés à l'intersyndicale. Et la CGT a également gagné une bataille. C'est plutôt par rapport aux autres mouvements sociaux que l'on a pu découvrir, notamment depuis un an, avec les Gilets jaunes, mais pas que, les marches pour le climat. avec ces mouvements de violence, il a réussi à dire « je sais tenir la rue ». Parce qu'hier, on n'a pas eu énormément d'incidents. Ça s'est plutôt déroulé dans le calme, à part certains Black Blocs qui étaient très isolés, très, très situés. Mais en règle générale, par rapport au nombre des 800 000, voire 1,5 million, parce que les chiffres sont toujours très variables selon les instituts, il a su gérer ça. Donc il a cette dynamique-là. Et là, il est en train, les organisations syndicales sont en train de créer une intersyndicale pour, encore une fois, faire converger les luttes. On a trois lectures de cette réforme des retraites. On a la réforme, finalement, et qui correspond à la réforme, à la lecture syndicale. Les réformes des syndicats anarchistes où on retire tout, on change de modèle et on est dur en termes de contestation.
C'est Sud, CGT.
Ouais. Oh non, on va même plus...
plus à l'extrême
Oui, oui, on peut aller plus à l'extrême. C'est la CNT, c'est les gros mouvements Black Bloc, ça peut être aussi. Donc c'est dur, et puis tout le milieu anarchiste. Ensuite, on a la deuxième lecture qui est plutôt révolutionnaire, contestataire, et qui est effectivement là portée par cette intersyndicale actuelle, où on a la FSU, la CGT, Sud, effectivement. Et après, on a ce mouvement, il faut oublier, ce mouvement réformiste qui se voit moins, mais qui doit rassembler plus encore, parce qu'on a le sentiment que la CFDT, elle est isolée, là, actuellement. Elle est en
Elle est un pied dedans, un pied dehors.
Elle est un pied dedans,
elle l'appelle
surtout
pas à manifester.
Pour les cheminots. Non, clairement non. CFDT cheminots, parce que ça concerne les statuts, donc c'est ça, ils y sont. Et puis quand on regarde les élections et les résultats des élections, elle pèse. Donc à partir du moment où elle pèse, elle répond à l'intersyndicale des cheminots. Ça, c'est assez logique. La CFDT au niveau national, on n'entend pas assez parler. La CFTC, la CFE-CGC, pour le coup, à un pied dedans et à un pied à l'extérieur et un pied dedans. Donc ça, c'est compliqué de lire la CFE-CGC. Et puis après, on a la CFTC. Et puis on a FO aussi, où c'est difficile de le lire selon les régimes et selon les endroits. Parce qu'en entreprise, FO est plutôt réformiste. Et là, pour le coup,
au niveau national
pour l'instant, il est plutôt exigeant. Donc c'est très compliqué, ces trois lectures qu'il faut avoir à l'esprit.
Roland Cayrol, on a vu un Premier ministre un peu martial quand même, hein, qui claironne un petit peu qu'il aura la peau des régimes spéciaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'il se dit qu'il joue son poste avec cette réforme et qu'il se dit, malheureusement, j'ai peur qu'au terme de cette séquence, le président de la République ait envie de s'en neuf à Matignon ?
Je ne crois pas. Je crois qu'il est assez sûr de lui, là, et qu'il est sûr du soutien du président de la République. Alors évidemment, comme on ne peut pas prévoir comment un mouvement social peut tourner, il peut y avoir des accidents, et l'accident, ça peut se résoudre par un départ de Premier ministre, ça s'est déjà vu. Là, pour le moment, je crois que ce n'est pas ça qui est en question. Je crois qu'ils sont vraiment sur la même ligne, que c'est exprès que Emmanuel Macron l'a mis pour le moment en avant pour montrer que c'est le gouvernement qui gère la réforme, se réservant la possibilité d'intervenir à la fin pour recueillir les fruits de cette période. Mais je ne crois pas qu'il y ait en ce moment de risque réel. Alors, si vous êtes Premier ministre, vous savez de toute façon que vous êtes sur un siège éjectable. À tout moment, le président peut vous demander de partir. Mais je ne crois pas qu'il le ressente spécialement en ce moment.
Solveig Godeluc, on a vu, le Premier ministre a dit aussi que la transition serait longue, qu'il y aurait des concessions de fait. Est-ce qu'à Bercy, on regarde cette réforme avec une peur bleue que ça ne plombe les déficits et qu'elle finisse par coûter très cher, à force de faire des cadeaux ?
Par construction, oui, c'est nécessaire. Oui, forcément, on regarde. Mais les déficits, de toute façon, sont là. Le problème, c'est plutôt de... Puisqu'on nous parle, enfin, vous dites 10 milliards, c'est même plutôt 12 milliards en 2025, déficit de l'assurance vieillesse.
On parle d'augmenter les enseignants, d'augmenter les millions, rappelez Stéphanie Matteoni.
Oui, effectivement. Mais je vous rappelle que l'année dernière, on a décidé de 17 milliards d'euros par an pour apaiser la
colère. C'est un one-shot, 17 milliards.
Non, puisque c'est tous les ans. C'est tous les ans. C'est l'augmentation de la prime d'activité, c'est la CSG pour les retraités, c'est les heures supplémentaires défiscalisées, désocialisées. Tous les ans, vous avez 17 milliards. Donc finalement, qu'est-ce que c'est ? Gérald Darmanin nous parle de 500 millions d'euros de plus chaque année pour arriver à 10 milliards au bout du compte par an. C'est quand même pas incroyable. Vous savez qu'on a quand même, sur les enseignants, on a 1 million d'enseignants. Donc, c'est pas 500 millions, c'est tout à fait faisable. Je pense même que hors retraite, hors réforme des retraites, le gouvernement avait prévu, d'ici le prochain scrutin présidentiel, de mettre quelques mesures pour revaloriser la fonction publique. Donc, ça tombera tout à fait à pic. Ouais.
Il y a du grain à moudre. De toute façon, Bruno, je dis, politiquement, Emmanuel Macron ne peut pas et ne veut pas reculer.
Non, il dit toujours, c'est la mère des réformes, donc il est hors de question de reculer sur ce texte qui est emblématique de ce qu'il veut faire. C'est un peu au cœur de son projet. Vous savez, son livre, c'était Révolution, et comme tout se tient. Et donc ce projet, c'est un projet de société. Et il cherche depuis le début, finalement, depuis le début du mandat, il a fait des réformes qui ne sont pas non plus extraordinaires. C'est des réformes qui étaient importantes, mais ce n'est pas celles qu'on conservera. Aujourd'hui, vous savez, les Français, la réforme la plus connue des Français, c'est le prélèvement à la source. Le code du travail réformé, la SNCF, tout ça, c'est des réformes assez techniques. En revanche, là, sur les retraites, c'est quelque chose, Roland le disait tout à l'heure, qui parle à tous les Français. Donc, c'est une réforme qui doit passer, quitte à mettre à sortir le chéquier. C'est sans doute, Solveig évoquait ce que ça pouvait coûter, c'est sans doute ce qui se fera en partie pour accompagner et faire passer cette réforme, en soignant beaucoup de professions. Et à mon avis, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est comment ils ont pu sous-estimer le problème avec les enseignants. Parce que là, il apparaît, il éclate au grand jour. Je trouve que ça n'a pas été très bien préparé en amont. Forcément qu'il va falloir augmenter les enseignants. Alors, si c'est 500 millions par an, c'est même étonnant.
On rappelle pourquoi, parce que si on calcule la retraite sur toute leur carrière, il faut qu'ils soient bien payés pendant toute leur carrière.
Voilà. Et les enseignants, ils ont envie de calculer, eux, qui seraient les grands perdants. Et de fait, le Premier ministre le dit dans sa déclaration tout à l'heure. Effectivement, il dit, oui, ils seront pénalisés. C'est vraiment la profession où c'est...
Ils le reconnaissent depuis le début.
Ils le disent depuis le début. Le Premier ministre à Rodez, lorsqu'il fait son seul débat sur les retraites, vous savez, ce fameux grand débat qu'il y a d'ailleurs, il y a eu deux réunions. Et il le dit, ça coûtera cher, 10 milliards, mais on n'aura pas tout l'argent, donc il va falloir trouver les voies et les moyens d'avancer.
Finalement, cette réforme des retraites va régler le problème de base, qui est le fait que les enseignants français sont parmi les moins bien payés de l'OCDE.
Exactement. Et juste une petite... l'ironie du système, et puis le côté magique, c'est que quand on augmente les salaires ou qu'on donne des primes qui vont être cotisées pour les fonctionnaires et donc les enseignants, ça fait plus de recettes pour le système de retraite. Il faut quand même pas perdre de vue cette chose-là. Bien sûr, ça coûte. Mais ça rapporte.
C'est le double effet. Donc il va payer deux fois pour les salaires et pour les cotisations.
Non, mais c'est qu'une partie de cet argent va être reversée.
Voilà,
donc ça va...
Alors, c'est l'argument phare d'Emmanuel Macron pour défendre sa réforme des retraites, offrir les mêmes droits à tous les Français. Dans sa ligne de mire, les fameux régimes spéciaux et leurs avantages, un sujet sur lequel il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Émilien David et Ariane Morisson.
C'est la pierre angulaire de la réforme des retraites.
Nous allons mettre un terme aux régimes spéciaux.
Ces régimes, ils sont... fragile aujourd'hui et coûteux.
Des régimes spéciaux extrêmement déficitaires qui sont payés par nos impôts.
Cher, injuste, mais qu'en est-il vraiment? Pour le savoir, nous nous sommes plongés dans un rapport de la Cour des comptes publié cet été. L'institution a étudié les régimes spéciaux qui représentent l'essentiel des dépenses. Celui de la RATP, de la SNCF et des industries électriques et gazières. Fin novembre, une députée de la majorité dénonçait sur Twitter des inégalités entre travailleurs.
Je pose ça là. Ce sont ces injustices sociales que la réforme des retraites entend supprimer.
Elle présente un document qui affiche des écarts importants des montants des pensions. Problème, ces chiffres sont inexacts. Selon la Cour des comptes, le montant moyen brut des pensions des retraités ayant eu une carrière complète était fin 2016 de 3 000 euros pour les anciens de la RATP, 3 140 euros pour les gaziers et 3 310 euros pour les cheminots. Mais c'est effectivement plus que les retraités du privé, qui perçoivent en moyenne 1 820 euros. Cette différence vient en partie du calcul des pensions. Pour les bénéficiaires du régime général, il est basé sur le salaire des 25 meilleures années. Pour ces trois régimes spéciaux, c'est le salaire des 6 derniers mois qui sert de référence quand le salarié perçoit ses plus hauts revenus. Et selon cet ancien rapporteur général de la Cour des comptes, cette différence vient également des écarts de rémunération.
Ça vient en effet de salaires qui sont différents et de salaires qui sont différents parce que les qualifications ne sont pas les mêmes, parce que la pénibilité du travail n'est pas les mêmes et donc appelle des sujétions particulières, des indemnités particulières.
Selon le gouvernement, les régimes spéciaux pèsent dans les finances du pays. La semaine dernière, dans le journal du dimanche, le ministre des Comptes publics a pointé du doigt leur coût pour l'État.
On a du mal à comprendre pourquoi l'État verse chaque année 8 milliards d'euros sur nos impôts pour les équilibrer.
En effet, l'État participe au financement des régimes spéciaux. Les cotisations des salariés ne couvrent que la moitié des coûts, le reste est subventionné. Mais même si ces régimes s'alignaient sur le régime général, leur coût s'élèverait à 8,4 milliards d'euros. Le surcoût lié aux spécificités comme le départ précoce n'est que de 3,1 milliards.
L'autre raison pour laquelle l'État subventionne ces régimes, c'est qu'ils ont un nombre de retraités très important par rapport au nombre d'actifs. Un ratio démographique est très défavorable. Mais ça, quelque part, c'est normal. C'est lié au fait qu'il y a 40 ans, on avait besoin de beaucoup plus de cheminots. Donc, il y a beaucoup de retraités et moins d'actifs aujourd'hui.
C'est un avantage souvent pointé du doigt. Les bénéficiaires des régimes spéciaux peuvent partir plus tôt à la retraite. Alors qu'au régime général, on peut partir à 62 ans, les salariés de la RATP et de la SNCF peuvent prendre leur retraite à 52 ou 57 ans en fonction des métiers. Et pour les métiers les plus pénibles des industries électriques et gazières, c'est possible dès 57 ans. Mais en moyenne, les salariés partent plus tard, et même de plus en plus tard. En 2017, l'âge moyen de départ était de 63 ans pour le régime général, quand celui de la RATP était de 55,7 ans.
La pénibilité du travail est avancée pour justifier ces avantages. Il n'est pas sûr que la pénibilité du travail d'un conducteur de train soit finalement beaucoup plus importante que celle d'un conducteur de bus dans une ville de province où il n'y a pas le régime de la RATP.
En 2017, 6% des salariés français dépendaient d'un régime spécial, soit un peu plus d'un million de personnes.
Question téléspectateur, les bénéficiaires des régimes spéciaux ne sont-ils pas en train de découvrir ce qu'est le lot des salariés du privé ?
Vous savez, d'abord ils sont en train de le découvrir parce que tous ne bénéficient plus de ce régime. Depuis quelques années, ceux qui sont embauchés à la SNCF ou la RATP ne sont plus dans le régime spécial, ils sont entrés dans le régime général. Donc, par exemple, le porte-parole de la CGT actuelle à Paris des transports, il sait que lui, il ira jusqu'à 62 ans.
Alors, c'est parce que la règle à la SNCF s'applique à partir du 1er janvier 2020, la fin du régime spécial.
Mais il y a déjà beaucoup de contractuels qui sont déjà sur le régime.
Mais ils ont embauché beaucoup de contractuels qui ne sont pas au régime statutaire. Donc, c'est déjà pas vrai pour tous. Mais c'est vrai, en tout cas, qu'il y a cette question de la pénibilité qui est au centre du débat et qui est un débat extrêmement compliqué. Parce que qu'est-ce qui est pénible ? Alors évidemment, on voit bien que c'est beaucoup moins pénible de conduire un TGV avec quelques boutons à surveiller de temps en temps par rapport à ce qu'était le type qui, dans une locomotive à charbon, devait en permanence alimenter la fournaise. C'est clair qu'il n'y a plus les mêmes critères de pénibilité. Mais c'est clair aussi qu'il y a des tas de métiers dans le privé où il y a des métiers qui sont pénibles tous les jours et qui n'ont rien à voir avec la pénibilité telle qu'on l'a mesurée du temps de Zola. La caissière de supermarché est un très bon exemple. Elles sont absolument plus que fatiguées à la fin de leur journée de travail et ça se comprend. Donc il faut bien voir quand les syndicats parlent de la pénibilité, c'est nouveau l'idée d'inclure vraiment le terme de pénibilité dans le calcul même des retraites. De cette façon générale, c'est assez nouveau. Il y avait des exceptions qui étaient dues à la pénibilité. Là, l'idée, c'est de prendre ce thème comme une des variables de calcul de la retraite, éventuellement pour tout le monde. Et c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas très facilement se mettre d'accord. Il y avait eu un essai sous le gouvernement précédent qui était une usine à gaz assez compliquée qui s'applique notamment au secteur privé dans lequel les entreprises ont le plus de mal à savoir calculer ces algorithmes, il faudrait des algorithmes un petit peu plus simples qui permettent à chacun de faire valoir la pénibilité.
Stéphanie Matteudy, est-ce que si à la SNCF, on a des syndicats qui vous défendent bien ? Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de syndicats, justement, comme vous disiez, Roland Cayrol, pour la caissière du supermarché. Il n'y a personne pour les aider et défendre leur point de vue et leur dire, bah, tiens, là, t'es gagnant, là, t'es perdant.
Non, non, il n'y a pas personne. Il y en a.
Mais on les entend moins. Ils sont moins visibles dans la rue.
Il y en a beaucoup. Bah, disons que c'est beaucoup plus difficile de faire grève quand on est effectivement dans le système privé parce qu'il y a plus de répression, clairement, de la part de l'employeur. C'est-à-dire que, déjà, quand on prend un poste de militant en entreprise, on n'est pas forcément bien vu. Ça, c'est le grand malheur français. On n'est pas forcément bien vu. La carrière, s'il n'y avait pas les lois, c'est possible qu'on ne progresserait pas vite en tant que délégué syndical ou militant ou représentant du personnel. Donc, il y a encore des tabous dans le secteur privé, c'est évident. Et il n'y a que 8% de toute façon qui sont syndiqués. Et ça, 15% dans le public et 5% dans le privé. Donc forcément, on est mieux défendu, mais parce qu'il y a un statut à défendre. Excusez-moi, mais effectivement, à la SNCF, je peux partir à 57 ans si j'ai ma retraite à taux plein, ce qui est quand même pas mal par rapport à mes 63 ans du régime général, et je vais percevoir une pension de reversion, une pension de 2636 euros, c'est la moyenne, 2017, résultat de la Cour des comptes, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres qu'on a vus dans le reportage, mais ça dépend de l'année. Alors que dans le système privé, je dois attendre 63 ans, il faut que j'aie ma retraite à taux plein, et je vais être entre 1300 et 1400 euros.
Donc oui, mais alors forcément, on peut vous rétorquer statuts, que dans le public, les qualifications ne sont pas les mêmes, que c'était dans le pacte social du départ aussi, finalement, cette retraite avantageuse. On sait très bien qu'en Allemagne, la Deutsche Bahn a beaucoup de mal à recruter maintenant des conducteurs parce que la carrière n'est jugée pas assez attractive. En France, on a des conducteurs, du coup.
Oui, mais on a de plus en plus, il y a énormément d'emplois qui sont de plus en plus difficiles à trouver à la SNCF. Parce que ça devient plus intéressant, ce statut ne devient... S'il saute, il devient plus intéressant, ce sera très difficile de recruter à la SNCF. Faut pas,
Solveig Godeluc, est-ce qu'il est faux de se dire que finalement, quand on est à la SNCF, on a beaucoup plus de leviers pour se faire entendre et qu'on obtiendra plus parce que, un, on peut paralyser le pays, et puis deux, on a derrière des syndicats qui... on a un syndicat plus efficace que dans le privé.
Ben non, c'est. Enfin, là-dessus, j'ai pas grand-chose à ajouter. Non. Effectivement, oui, vous pouvez bloquer le pays quand vous êtes à la SNCF.
Et donc, c'est l'effort qui gagne à la fin, quoi. C'est
ça ne veut pas dire forcément que vous allez gagner. Ça peut être une victoire à la Pyrrhus. Hein. Écoutez, moi, quand on a entendu le Premier ministre aujourd'hui, il a dit, les régimes spéciaux ne sont plus compris. Donc, lui, il table sur le fait qu'à la fin, les Français vont s'énerver et vont se dire, ben, nous, on veut bien être bloqués 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais à la fin, il faut qu'on aille travailler.
Donc, la grève sociale va faire en sorte qu'on va quand même compenser par des primes et par des grilles revalorisées.
Oui, voilà. Non, mais ensuite,
c'est ça la France.
Il y aura nécessairement quelque chose, mais en même temps, il faut quand même prendre en compte le fait que les régimes spéciaux, c'était des pionniers. C'était des gens qui ont mis en place une retraite à l'époque où il n'y en avait pas, et donc, c'est des conquêtes sociale, et que c'est vrai qu'ils n'ont pas très envie de retomber dans le régime général qui est quand même un peu moins reluisant.
Alors est-ce que c'est pas dangereux, comme on dit, de monter les Français les uns contre les autres?
C'est l'axe qui a été choisi par Emmanuel Macron lorsqu'il va à Amiens, qu'il prend la parole dans sa conférence de presse, puis le soir à la télévision, sur une chaîne en boucle, et il dit en gros, les régimes spéciaux, ça ne peut pas continuer. Donc, et il met un peu en garde les Français, il leur explique que lui, il veut mettre un peu fin à ce statut avec les mesures d'accompagnement dans le temps et tout ça. Donc il durcit le discours. Après, c'est good cop, bad cop. Le Premier ministre, dernière, essaie un petit peu de rentrer dans la négociation, parce que c'est un bras de fer. Et donc aujourd'hui, ça continue, on est toujours dans cette histoire-là, qui au fond, un film qu'on a déjà vu plusieurs fois, 95, ouais. Et à chaque fois, c'est vrai que ce sont deux entreprises avec des syndicats puissants, et ils peuvent bloquer, ils l'ont montré. Souvenons-nous qu'en 95, ça commence le 24 novembre, ça se termine le 21 décembre par la victoire des cheminots. C'est une vieille histoire. Le régime spécial des cheminots, c'est 1909. Hein. Il ne faut pas oublier que ça fait plus d'un siècle qu'ils sont dessus. La bataille pour obtenir la fin des régimes spéciaux, elle va forcément être longue. Elle ne durera pas 3 jours.
Hein. C'est Yves Verrier, le leader de Force ouvrière, qui dit résultat, on ne parle que de ces régimes spéciaux qui ne concernent que 300 000 personnes et on ne parle pas des 18 millions de salariés qui, dit-il, vont passer à la moulinette de la retraite à points. Est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe, là, quand même, à se focaliser sur ces régimes spéciaux ?
Moi, je serais pour prendre le gouvernement au mot Pourquoi est-ce qu'ils font cette réforme ? Toutes les réformes précédentes de la retraite ont été des réformes pour sauver financièrement les systèmes de retraite. Y compris d'ailleurs celle dont on ne parle jamais, celle de Marisol Touraine en 2014, qui s'est passée sans grand mouvement social, qui fait que c'est quand même maintenant 63 et plus 62 ans.
Pour et on augmente d'un trimestre.
Voilà,
hein,
tout, un trimestre tous les trois trimestres.
Un trimestre tous les trois ans.
Un trimestre tous les trois ans.
Donc un
c'est
mois
ça. Donc, voilà, voilà. Donc là, il y a eu une réforme, et c'était encore une réforme pour sauver financièrement le système. Là, ça n'est pas le cas. On ne nous dit pas que c'est pour sauver financièrement le système. Au contraire, moi, si je calcule bien, comme on assure à chacun au minimum la retraite qu'il a déjà et qu'on fait des minimums à 1 000 euros, je ne vois pas comment ça pourrait coûter moins cher. Ça va coûter plus cher. Mmh. Donc pourquoi cette retraite, ce changement ? Et ils nous disent que c'est une réforme de justice sociale, universelle et juste. Et le Premier ministre, dont ce n'est pas le vocabulaire habituellement, nous a dit cet après-midi, une réforme de justice sociale. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que ça va être une réforme de justice sociale ? Moi, de ce point de vue, j'ai des intuitions, mais je n'ai pas de certitude. Je vais attendre mercredi le discours devant le Conseil économique, social et environnemental. Et prenons nos calculettes, parce que c'est vrai que pour le moment, là, Édouard Philippe a raison de dire qu'il y a eu des systèmes sur Internet permettant soi-disant de calculer qui étaient des systèmes qui étaient des fake news. Et c'est vrai, c'était faux. Il faisait croire aux enseignants qu'en moyenne, ils allaient perdre 1 000 euros par mois quand ils seraient à la retraite. Par rapport à leur retraite actuelle,
des
simulateurs, oui. C'est ça. Donc là, puisqu'on va avoir non seulement l'architecture, mais nous a-t-on dit le détail du plan mercredi prochain, on va voir. Moi, je crois que c'est ça le problème. C'est au nom de la justice sociale qu'on entend faire cette réforme du système en faisant un système à points, et c'est au nom de la justice sociale qu'un certain nombre d'organisations syndicales manifestent et font grève. Il n'y a pas 50 façons de mesurer la justice sociale. Il n'y a qu'à voir dans les différentes catégories ce qui va se passer, et on verra bien. On verra bien si on peut faire confiance dans la promesse de ce gouvernement.
Et on attendra donc mercredi à midi d'en savoir plus.
Je peux intervenir juste là-dessus. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, la question c'est la justice sociale, mais le gouvernement n'arrive pas à le vendre depuis le début. Je ne sais pas comment il s'y prend comme un manche, mais
depuis le début, tout
le monde comprend que cette réforme, il faut surtout la repousser le plus loin possible, parce que ça va être horrible, ça va nous faire du mal.
Et donc on se retrouve avec des gens.
On se retrouve avec des gens à qui cette réforme devrait profiter. Donc plutôt des gens aux carrières heurtées, aux bas salaires, des femmes, ces gens-là qui sont dans la rue persuadés qu'on va les voler. Vous parlez aussi des salariés du privé qui vont se faire avoir, parce qu'en fait on parle que des régimes spéciaux, mais c'est censé être une réforme bénéfique. Alors après, bon, bien sûr, le diable est dans le détail, c'est-à-dire qu'il va falloir bien fixer les petits détails, la transition, les conversions, les revalorisations de carrière, tous ces machins-là, mais c'est pas une réforme pour vous piquer votre argent.
Voilà, en tous les cas, le message n'est pas passé, vous le disiez. Alors, pour les syndicats, il faut transformer l'essai, maintenir la pression au lendemain de leur démonstration de force. Des journalistes de C'est dans l'air ont passé la matinée dans les assemblées générales avec les grévistes, cheminots, conducteurs de bus, professeurs, tous s'organisent pour tenir, persuadés que le bras de fer sera long. Sujet de Mélanie Nunes et Ariane Morisson.
Un arc-en-ciel au-dessus de Paris. Et à la gare de Lyon, la satisfaction d'une mobilisation réussie.
Sur le Grand Est, il y a 26 trains qui ont roulé sur 1600. Et en Champagne-Ardenne, ils ont encore fait plus fort, 0 train. La situation était réglée. Donc je pense que si ça continue comme ça, lundi, mardi, même pour moi, pour venir aux AG, peut-être réserver un hippico au syndicat, parce que ça risque de devenir très rapidement catastrophique pour les circulations.
Confortés par l'ampleur de la mobilisation, ces contrôleurs de train veulent durcir le bras de fer avec le gouvernement.
Je suis super fier d'être cheminot aujourd'hui. On a montré qu'on savait encore être la locomotive d'un mouvement social national. Mais il faut qu'on continue à entraîner les wagons derrière et qu'on ne les lâche pas. Il faut leur donner cette culture de combativité qu'on a, nous, les cheminots, qui s'est construite sur plus d'un siècle de cheminoterie.
On a pu le faire en 95, sans train de mettre.
1995, la solidarité avait été la clé du succès. Stéphane Vess, gréviste à l'époque, se souvient de cette entraide financière pour tenir.
On mangeait des patates, on mangeait des pâtes, mais ça a permis quand même de pouvoir continuer à vivre en faisant très attention. Il y en a qui anticipent, qui mettent un peu de côté, qui prévoient un peu des choses. Il y a ensuite la solidarité entre nous.
Des repas contre quelques euros et l'ouverture d'une cagnotte entre collègues. Les réunions et débats s'enchaînent, cette fois dans le local de la CGT.
Lundi, il faut s'attendre à ce qu'on soit beaucoup plus nombreux aux assemblées générales.
L'occasion d'organiser la nouvelle mobilisation de mardi prochain, faire durer ce mouvement, quoi qu'il en coûte.
Noël sera difficile, mais voilà, comme beaucoup de gens l'ont dit, nous on préfère perdre quelques centaines d'euros au mois de décembre 2019, une fois, que perdre des sommes quasiment équivalentes tous les mois quand on sera à la retraite dans 10, 20, 30 ans. Et ça, c'est un choix qu'on fait. Alors oui, ça va être dur, oui, la fin de mois sera difficile, mais l'enjeu est à la hauteur.
À la retraite dans un an, Stéphane Vess veut passer le flambeau de la contestation aux jeunes générations de cheminots en première ligne de ce conflit. À quelques pas de là, sous un hangar de la SNCF, une AG interprofessionnelle à l'initiative des cheminots.
Cette semaine qui va venir va être déterminante. Le gouvernement reçoit les organisations syndicales. Le gouvernement va faire de nouvelles annonces. Il faut qu'elle se fasse sous la pression la plus forte.
Dans la foule, des fonctionnaires grévistes, notamment des enseignants.
Bon courage à tous.
Jean-Yves est professeur dans un collège voisin de la gare.
Après la belle journée d'hier, après cette manifestation qui est la plus importante de ces dernières années, eh bien, ce matin, les collègues pensaient que ce n'était pas possible de reprendre le travail parce que la menace est grande pour nous. Alors je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent, on va voir ce qui va se passer lundi, mais moi j'ai le sentiment que quelque chose peut se construire et que le nombre de salariés dans ce pays qui sont menacés, c'est-à-dire tous les salariés en fait, par la menace, puisque les retraites, ce n'est pas les régimes spéciaux des cheminots, ce n'est pas les salaires des enseignants. C'est tout le monde, hein, que ce soit privé et public.
Un vote à main levée pour la poursuite du mouvement.
La grève est reconduite jusqu'à lundi matin.
Grève reconduite, au moins jusqu'à lundi.
Alors, question téléspectateur. Entre le droit de faire grève et le droit de circuler et de travailler, lequel prime ? Bruno Jeudy, est-ce qu'il y a cette fameuse majorité silencieuse là ?
Il y a toujours, de toute façon, d'ailleurs le Premier ministre s'est adressé à ceux qui souffrent, ceux qui sont justement victimes de la grève des transports, ils sont nombreux, surtout en région parisienne. On est au début de ce mouvement, donc on va voir aussi comment ça va se passer. Vous savez, en 95, il y avait eu cette fameuse formule, la grève par procuration, c'est-à-dire qu'une partie des non-grévistes ou des non-manifestants, voire de ceux qui ont souffré en première ligne, disaient dans les enquêtes d'opinion... On soutient le mouvement. Cette fois-ci, je suis assez d'accord, la bataille d'opinion n'est pas perdue pour le gouvernement. C'est quand même c'est un peu moins élevé que d'habitude. Et puis, les cheminots, ils ont déjà fait une grosse grève en 2018. Donc, il y a aussi... ça revient un peu vite, et surtout sur des durées importantes. Les gens vont aussi s'organiser pour Noël. Donc, c'est vrai que ça peut être un allié, cette majorité silencieuse, comme vous l'appelez, peut être un allié pour le gouvernement. Encore faut-il qu'il alimente pas plus la confusion qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Ouais. Au fond, la surprise d'une réforme qui était plutôt soutenue, jusqu'à l'été et assez largement par l'opinion. Enfin, en gros, ce principe de retraite universelle est plutôt soutenu quand on regarde les enquêtes d'opinion. Puis à partir de l'été, ça a commencé un peu à il y a un peu de grain de sable. Je pense que le gouvernement a lui-même un peu alimenté la confusion. Ouais. Le président un jour a parlé de la clause du grand-père. Ah bon, la clause du grand-père, qu'est-ce que c'est ? Ah ben, c'est la possibilité de l'appliquer aux nouvelles générations. Et puis, 8 jours plus tard, c'est le Premier ministre ou le commissaire qui dit « Non, pas possible, pas de... » Le seul problème, c'est que les cheminots, quand ils entendent la clause du grand-père, ils se disent « Super !» Et puis après, c'est abandonné. Ouais. Donc, il y a eu toute cette confusion qui fait que ça a un peu remonté tout le monde. Et la majorité silencieuse qui pourrait être alliée du président, elle-même, elle se demande ce que c'est que cette réforme. Comme disait Solveig, normalement, ça devrait être un truc favorable. Pour une bonne partie de ceux, notamment les basses pensions, les gens qui ont des pensions inférieures à 1 000 euros aujourd'hui, par exemple. Et puis, on ne les entend pas, parce que pour le reste de l'opinion, personne ne sait à quelle sauce il va être mangé. Il n'y a pas de simulateur du gouvernement.
Il faut attendre mercredi.
Donc, il faut attendre.
Non, Stéphanie Matteudi, est-ce qu'on a vu le sujet là, dans des cheminots ? Est-ce qu'on peut dire que la base est très remontée ? On dit même qu'elle est parfois plus remontée que les états-majors des syndicats.
Et souvent, de toute façon, dans les syndicats, ça ne se passe pas au niveau des confédérations, on le sait bien, ça se passe dans les bases, ça se passe dans les syndicats. C'est eux qui décident finalement du mouvement. C'est pas Laurent Berger qui dit « allons-y » ou « n'y allons pas ». Il peut potentiellement inciter, mais ça s'arrêtera là. Et c'est pour ça que dans n'importe quelle organisation syndicale, il y a ceux qui y vont et ceux qui n'y vont pas. Chacun décide. Les bases, les fédérations ont un rôle important, mais les syndicats et les sections syndicales d'entreprise, les bases, on le voit bien là. Ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est que on s'est un peu lassé, malgré tout, de leur répertoire d'action. Leur mobilisation, leur organisation, c'est toujours sous la forme, on le voit très bien dans le reportage, ce sont des organisations, des assemblées générales. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un blocus? On est toujours sous la forme de tracts, de pancartes. Est-ce qu'aujourd'hui, on aime encore ce mode d'action? Est-ce que dans la durée, ce mode de mobilisation peut tenir?
Justement, pour tenir, parce que financièrement, les jours de grève ne sont plus payés maintenant. Donc il faut tenir financièrement à la maison. Oui. Et c'est le mois de Noël.
Ça fait très longtemps. Alors c'est le mois de Noël. Alors encore une fois, là, on l'a vu, de toute façon, ils sont extrêmement motivés. Encore une fois, cette réforme, elle est fondamentale pour le renouveau syndical. Donc il y a une motivation extrêmement forte. Deuxièmement, il y a un peu de caisse de solidarité. La plus grosse, c'est à la CFDT, donc on ne s'en servira pas, mais il y a une caisse d'action syndicale à la CFDT qui est de plusieurs 164 millions de francs, donc c'est que 164 millions d'euros, pardon. Donc elle est énorme, elle sert à la défense des intérêts individuels et collectifs, et elle sert pendant la grève, où on va donner 7,30
euros la CFDT
de l'heure,
enfin, à part la CFDT cheminot,
et il y en a, il y a des sections en entreprise qui font grève, et des sections CFDT. Après, c'est les caisses de solidarité, puis on l'a vu, à la RATP, il y a un 13e mois, et il a été donné début décembre. Ça permet de tenir également. Donc, il y a plein de petites astuces. Il y a surtout une grosse mobilisation, et je pense une grosse incitation, c'est important. Et puis après, derrière, le calendrier est pas mal. On a eu jeudi, vendredi, là c'est week-end. Donc ça, quelque part, on peut continuer, mais ça ne touche pas le salaire directement. Après, on a mardi. Et puis après, finalement, si les annonces traînent, c'est pas bon, parce que les jours de mobilisation vont se cumuler. Et s'ils sont motivés, ils vont continuer. Et on peut être parti encore pour 9 jours de mobilisation sans souci. C'est clair, il y a une motivation forte.
Roland Quayrol, votre impression, c'est que le gouvernement joue le pourrissement ou bien non, il veut faire un truc carré et mercredi, avec des annonces clôturées
Non, je crois qu'il ne veut pas jouer le pourrissement. Il veut jouer une fin de négociation avec ceux avec qui il est possible de négocier, c'est-à-dire les syndicats réformistes que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais il y a une variable, c'est pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Le Premier ministre nous dit « Moi, je ne suis pas un homme de la confrontation. Mm-hmm. » Et nous voyons, on a vu dans le reportage, par exemple, cet enseignant qui dit « On s'est dit quand même avec des collègues, on ne va quand même pas s'arrêter là. Il y a maintenant une possibilité qu'on existe plus, qu'on bouge. » quoi. Et je crois qu'il y a dans l'ensemble du pays, et que les gilets jaunes ont beaucoup fait renaître ça, une espèce de gilet jaunisation des esprits, une volonté d'en découdre parce qu'il y en a marre. Quoi. On est maltraité, c'est toujours nous qu'on prend, c'est toujours nous qu'on est victime de la façon dont le pouvoir agit. Il y a une détestation du pouvoir politique qui s'est aussi beaucoup accrue dans la dernière année. Et je crois qu'il faut pas, il faut prendre en compte ça. C'est pas seulement qu'il y a les syndicats, que les syndicats sont sensibles à la base. Après tout, c'est leur rôle. C'est que syndicats mis à part, il y a cette espèce de volonté de dire on est là, et on est toujours.
Il
va
y avoir une gilet jaunisation du mouvement.
Et d'ailleurs, je le crois. Et d'ailleurs, Axel Attardé, ça n'a pas été tellement relevé hier, parce que finalement, la manif parisienne, bon voilà, alors combien il y avait de personnes exactement, selon l'occurrence, c'était 65 000.
Il y avait les gilets jaunes.
Ouais. Mais non, mais surtout. Moi, j'ai été frappé par l'énorme mobilisation en province. C'est-à-dire que partout en province, il y avait du monde. Il y avait jusqu'à 20 000 personnes à Caen, par exemple. Vous regardez, et c'est des affluences assez importantes pour la province. Et au fond, on retrouve un peu ce côté en province. Il y a cette dimension, on en a marre de ce pouvoir un peu. Il y a aussi ça dans la mobilisation. Et de fait, même si c'est Édouard Philippe qui est en première ligne, on l'a encore vu aujourd'hui, c'est lui qui est à la manœuvre. Et là, pour le coup, le président, d'ailleurs, était aujourd'hui enterré. Les des pompiers Compéry du côté de Nîmes, les slogans, tout était hier centré sur la personnalité du président, comme ce fut le cas pendant le mouvement des Gilets jaunes.
C'est pour ça qu'il me paraît si important pour eux d'insister sur l'aspect justice sociale. Parce que sans quoi, ça risque d'être vraiment des gens qui parlent les uns et les autres dans le désert.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Après la forte mobilisation d'hier, le gouvernement craint-il désormais l'embrasement et un scénario pire qu'en 95 ? Bruno Jeudy, ils en parlent au sein du gouvernement, on en parle ?
Non,
de ce 95.
Quand ils c'est un mot tabou. Quand ils en parlent, c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec 95 et de fait, l'impact de ce mouvement fort sur le terrain est un impact quand même peut-être moins fort parce que la société a changé, il y a le télétravail, les mobilités aussi ont changé, ça impacte la vie quotidienne, c'est évident, on verra sur la durée, si ça dure, mais ce qui est évident, c'est que tout n'est pas comparable, même si c'est vrai qu'on est encore une fois de plus avec, j'allais dire, comme moteur, le réacteur, c'est les régimes spéciaux, des cheminots et des agents de la RATP. Et là, cette fois-ci, les enseignants, qui n'étaient pas là en 95, et c'est pour ça que le Premier ministre s'est chargé de bien déconnecter et de soigner les enseignants, de les déconnecter des régimes spéciaux qui doivent disparaître.
Dans une société déjà en ébullition, était-il opportun de vouloir conduire une réforme mal ficelée et divisant l'opinion ? Solveig Godeluc.
C'est une citation de qui ?
Question téléspectateur, très bien informée.
D'accord. Comme on le disait tout à l'heure, c'est au départ.
Il n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre, j'en sais rien.
Au départ, c'est conçu comme une réforme de réconciliation. En fait, vous voyez bien que depuis des années, on mène des réformes des retraites qui visent à réduire les coûts pour réussir à ne pas mettre complètement en déficit l'assurance vieillesse. Que à chaque fois, ça stresse tout le monde. Que chaque nouveau président doit mener sa réforme des retraites douloureuse. Et Macron, pendant sa campagne électorale, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais bon, comme il est un petit peu en même temps, il est ni à gauche ni à droite, il ne pouvait pas faire une réforme de gauche qui consiste plutôt à faire des cadeaux, mais s'il faut faire des efforts à allonger la durée de cotisation, ni une réforme de droite qui consiste surtout à faire des efforts et à repousser l'âge de départ. Il fallait qu'il trouve autre chose. Oui, je précise aussi qu'à droite, c'était, il faut supprimer les régimes spéciaux, qui nous coûtent cher et qui abusent, etc. Donc, il a fait un truc au milieu.
À la Scandinave.
Il a eu, à l'époque, il y a eu un alignement des astres, puisqu'on croyait alors que le régime était complètement équilibré et qu'il n'y avait plus de difficultés de financement. Donc il a dit non, je ne fais pas de réforme de réduction de coûts, je fais une réforme systémique, je fais un beau système parfait où tout le monde peut passer d'un régime à l'autre sans problème, en toute fluidité, où tout le monde voit toute sa carrière prise en compte donc par le système des points. Chaque heure travaillée rapporte des points, ce qui n'est pas le cas dans le système actuel par annuité. On aura à la fois la justice et la suppression des régimes spéciaux. Je reviens là-dessus parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une surprise, la suppression des régimes spéciaux. Non, c'était l'un des buts de guerre de cette réforme.
Avant l'été, la question du téléspectateur est plutôt bien choisie, parce qu'avant l'été, ils se sont posé la question. Et le président, sortant du grand débat et ayant un peu remonté largement dans l'opinion, s'est senti, les européennes, il s'est senti assez fort pour lancer cette... Beaucoup l'ont mis en garde. Richard Ferrand lui a dit, par exemple, ce serait une excellente réforme pour le début de ton second mandat. François Bayrou lui a dit faire attention, on est dans les gilets, on sort à peine des gilets jaunes, le tissu social est très fragile, c'est peut-être pas le bon moment. Bon, la décision a été prise, sachant que le Premier ministre, lui, au départ, était plutôt pour se contenter de mesures paramétriques et attendre la réforme à point, sauf que Macron, là, dans son programme, il décide de le faire.
Je termine ma réponse quand même, mais en fait, tous les gars un petit peu expérimentés, et surtout tous les politiques n'en voulaient pas de cette réforme, en voyant que les soucis que ça allait poser. Mais le truc, c'est que Macron est arrivé en disant, moi, je renverse la table, je fais quelque chose de complètement différent, j'ai un autre style, donc je veux une transformation en profondeur et je suis prêt à prendre tous les risques, avec l'hubris qui caractérise un peu les jeunes, voilà.
Je ne suis pas contre les régimes spéciaux, mais contre le fait qu'ils coûtent 8 milliards à l'État. Roland Cayrol, d'ailleurs, qui paye ces 8 milliards qui financent les régimes spéciaux ?
C'est nous, c'est l'État, donc ce sont nos impôts. C'est donc la solidarité nationale, au sens très clair du terme. C'est pareil, si les gens sont pour les régimes spéciaux, c'est à cause des 8 milliards, c'est parce que ça coûte cher, et que ça coûte cher à ceux qui n'en sont pas.
Mon voisin cheminot est parti en retraite à 52 ans. Moi qui suis coiffeur à 65 ans. Oui, bah voilà, c'est le reproche de base qu'on fait contre les régimes spéciaux. Quoi. C'est,
c'est un régime
la jalousie, en fait.
Qui était plus protecteur. Mais c'est pas ça, c'est que chacun voit midi à sa porte. Ouais. Tout à l'heure, on l'a très bien dit, c'est une question de patrimoine. Chacun se dit, mais demain, je perds combien ? Moi ? Et donc, effectivement, selon la variable d'ajustement, elle est compliquée à trouver. Effectivement, là, on voit bien les systèmes plus protecteurs que les autres.
Il y en a de moins en moins qui partent à 52 ans, quand même, parce qu'il y a eu la dernière réforme, il y avait la décote, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils partent plutôt, s'ils veulent une retraite complète, à 57. Je ne dis pas que c'est pas un avantage, mais ils partent un peu plus tard.
Et bien voilà, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h15. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité. À suivre, c'est à vous.